Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico
et à ma gauche Manu.
Et devenez un collab sur les dessins animés en tout genre.
Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, chers animé fans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un manga gore et c'est violent à la fois, car nous allons parler de Tokyo Ghoul. Et pour cela, pour m'accompagner dans les affres des ténèbres de Tokyo Ghoul, j'ai deux chroniqueurs expérimentés. Tout d'abord, le pétillant Alex. Salut Alex.
Et salut tout le monde.
Notre expert Tokyo Ghoul.
Ah ouais, carrément.
Et, ah oui. Et le deuxième de ces félons. Le trait de la femme Juju Kafi qui est là.
Ouais.
Qui est là pour nous assister techniquement aujourd'hui.
Oui, juste technique, on va dire. Voilà, deux épisodes, c'est déjà pas mal.
Voilà, il a vu deux épisodes, le pauvre, donc il ne pourra pas.
Donc si vous faites un bon podcast, ça me donnera envie de voir la suite.
Ah ben voilà, donc on va essayer de convertir notre Juju Bafi et ça va être dur. Bon,
ah, le coup.
Bon, donc on va commencer quand même par rafraîchir un petit peu les mémoires comme d'habitude. Donc on va laisser un petit peu résumer l'histoire à Alex, notre expert aujourd'hui de Tokyo Ghoul. On a de la chance.
Expert pas, mais un bon fan quoi. Un bon.
Ah, un très bon fan. Allez, vas-y.
Alors l'histoire de Tokyo Ghoul en fait, c'est on vit dans Tokyo en fait, et ce qui est particulier en fait, c'est que il y a des ghouls, ce sont des êtres surnaturels avec plus ou moins comme particularité du pouvoir, et en contrepartie, ils doivent se nourrir d'êtres humains. Et alors l'histoire se passe, en fait on va suivre l'histoire de Ken Kaneki, le fameux Ken Kaneki.
Oui, le fameux héros.
Voilà. Qui, par un pur hasard, va être confronté à une ghoule.
Ouais, tout à fait.
À une ghoul, et malencontreusement, on va dire qu'il va se trouver un peu entre être humain et un peu être ghoul.
Tout à fait.
Ce qui va perturber toute sa vie.
Hélas.
Et qui va l'amener à faire des choix très compliqués, et du coup, il va devoir se battre plus ou moins pour ses principes, et puis bah, se battre pour survivre aussi.
Oui, tout à fait.
Voilà la grosse résumé.
Oui. Tu nous as fait les grandes lignes là, oui.
Voilà. Oui, parce que après, on rentrera dans les détails après.
Ah, très
parce
bien.
Parce que justement, ce qui est important dans Tokyo Ghoul, c'est le personnage principal.
Tout à fait.
Qui a énormément de choses à dire, mais le problème, c'est que va falloir y aller petit à petit.
Ok.
Voilà ce que je pourrais en dire.
Tout à fait. Donc on va passer quand même, on va quand même développer donc du coup comme tu le disais sur ce héros quand même assez atypique qui est Ken Kaneki quoi.
Voilà. Ken Kaneki.
Tout à fait. Qui est, j'ai enfin trouvé un héros qui était plus malchanceux que moi parce que ce pauvre Ken Kaneki comme tu l'as dit, il va vraiment être transformé en fait lui-même en ghoul, enfin en une espèce ouais. de demi-ghoul un petit peu par hasard parce que il va se faire draguer. Par une bombasse dans un café et finalement il va s'avérer que la bombasse en question du nom de Liz voilà la fameuse Liz voilà il s'avère que c'est une ghoul extrêmement puissante et elle veut en faire son 4 heures quoi
voilà donc, c'est ça elle veut le bouffer quoi carrément.
Voilà et notre
oui, mais
pauvre
lui aussi
héros
voulait
va
faire
être,
son 4 heures mais dans l'autre sens
ouais oui c'est pas faux dans l'autre sens mais... et donc le gros souci, en fait, bon, encore que il a de la chance parce que la pauvre va être tuée à coups de poutrelles métalliques.
Voilà.
Et donc il va s'en sortir in extremis.
Heureusement que t'as précisé métallique.
Le problème, c'est que ça va le blesser gravement.
Voilà, et donc ils vont être obligés de greffer les organes de Liz sur ce pauvre Ken, quoi.
Alors le problème, c'est qu'il n'avait pas le droit de le faire, il me semble, le médecin.
Oui,
il prend le risque
en fait,
pour le sauver voilà. Et au final
donc, bien entendu il y a un complot en fait bien entendu
c'est sûr,
beaucoup plus complexe que ça hein, bien entendu
ouais,
le médecin qui a fait la transplantation bien entendu que on découvrira plein de choses dans Tokyo Ghoul et c'est ça qui est intéressant justement hein.
Ah
c'est
bah
cette
oui.
espèce de complot,
si vous avez
de complot dans l'ombre qui manipule un petit peu tous nos protagonistes quoi aussi.
C'est ça. Donc, et du coup, il va se transformer en mi-homme, mi-goule.
Voilà, mi-homme, mi-goule. Hein, c'est...
Il va carrément tout changer sa vie parce qu'à partir de cet instant, il ne peut plus se nourrir.
Nourrir.
De
eh ouais,
d'ailleurs, c'est ce que j'avais vu. Il, oui, il ne peut. Il peut pas manger de sang, lui, en fait, au début.
Ah non, 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 il est obligé de, oui, de manger de la chair humaine. Quoi,
voilà, hein, il peut plus manger genre un steak, c'est plus possible. Quoi.
Ah non, 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 ouais, même un, oui, même toute autre forme de viande. Il teste tout, d'ailleurs, hein, y a une. Oui, ouais. Il y a une très très bonne session là dans l'animé où vraiment ils testent tout et il y a rien qui passe quoi.
Elle est vachement glauque cette scène parce que oui. Tout puis à chaque fois il vomit derrière et il retombe dans un
ouais ouais. Ah oui, c'est affreux ouais.
Très dur mentalement, c'est chaud.
Ouais ouais. Très, ah non, mais là la série se veut d'ailleurs très trash et très gore quoi hein. C'est vraiment un seinen hein, de toute façon
ouais.
Au niveau de la classification du manga enfin de l'œuvre quoi. Donc,
du coup, à partir d'un certain instant, il est obligé de manger des êtres humains.
Tout à fait.
Problème.
Mais c'est surtout qu'il a le désir aussi. Il commence à avoir, tout comme un vampire, cette envie de désir de chair humaine, quoi. C'est là aussi où il va devoir lutter contre son instinct, quoi, de goule.
Ça, il va être complètement tiraillé parce que il est incapable de faire du mal aux autres. C'est un mec, il est présenté comme un vrai gentil, quoi. Il est vraiment.
Oui, tout à fait, ouais.
Incapable de faire de mal aux autres. Et le problème, c'est que il est obligé de se nourrir d'êtres humains et il ne sait pas quoi faire. Il est complètement perdu à ce moment-là. Il ne sait plus quoi faire. Et c'est là que surgit Toka.
Voilà, la fameuse héroïne.
La fameuse héroïne qui
c'est bon,
le
gars,
force.
On prend le relais.
Bien compris. Voilà. Nous, on va s'occuper de guider les réfugiés.
Finalement, se rend compte qu'il est obligé de manger ça pour survivre.
Ouais, tout à fait. Et oui, tout à fait. Voilà. C'est exactement là. Bon, Toka qui va, bien entendu, notre héroïne qui va lors de la première saison avoir énormément d'importance, quoi, par rapport à notre héros en fait. Hein. Parce qu'en fait, on est vraiment avec un héros qui est énormément sur la réserve, qui est un jeune homme qui est passionné
comme
de.
Moi. Il est tout comme moi.
Qui est passionné de littérature. Ça, j'ai adoré parce que moi aussi, j'adore
beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça.
Il a toujours un livre dans la main. Enfin, on part vraiment avec un héros presque banal, quoi, au début. Enfin. Quelqu'un qui se démarque pas trop, on va dire, de la société, quoi. On n'est pas avec le bad guys ou le machin, le héros hyper dynamique et tout ça, bien au contraire, quoi.
Clairement, ouais, c'est tout l'inverse, même.
Bien au contraire, parce que, voilà, qui a énormément souffert, en plus, dans son enfance, enfin, il a une blessure.
Il a une histoire compliquée aussi derrière, oui.
Une histoire enfouie, voilà, une blessure cachée, voilà, qui est justement, sa transformation en ghoul. Va faire ressurgir tous ces vieux démons là aussi, ouais. Donc c'est ça qui est super intéressant dans Tokyo Ghoul, la psychologie de chaque personnage.
Surtout la sienne, parce que la sienne change énormément dans le manga.
Ouais, tout à fait.
Au début, c'est vraiment quelqu'un de très réservé, qui prend pas de risques, qui est là vraiment pour faire passer le temps et vivre, quoi.
Tout à fait, ouais.
Puis il passe dans cet être là, enfin dans cette phase là où il a un peu les deux, où il sait pas quoi faire, où du coup il se cherche une place carrément dans le monde parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il est.
Mm-hmm.
Il est à la fois humain parce qu'il a les sentiments et le caractère d'un humain et il est né humain.
Ouais, tout à fait.
Et il a tous les côtés plus ou moins négatifs de le dégoût qui se nourrit de chair humaine.
Cannibale, ouais.
et que en plus de ça, c'est très très dopant, enfin on va dire très addictif, il est obligé d'en manger, sinon il meurt. Donc
oui, c'est ça, bah il meurt de faim, hein. C'est manger pour survivre
très,
en fait.
C'est très compliqué, ouais. Et c'est là du coup qu'il, grâce à Toka, qu'il rentre dans le fameux café l'antique.
Le fameux café l'antique. Le 20e arrondissement.
Voilà, qui est plus ou moins un repère de ghouls, mais
ouais,
qui se nourrit principalement d'hommes morts.
Ouais, de cadavres déjà, voilà. Oui,
voilà, de cadavres déjà morts.
Ouais.
Avoir une sorte d'éthique.
Voilà, tout à fait.
Les gens, ouais. Parce qu'ils veulent plus ou moins. En fait, ce que cherche l'antique, c'est à vivre avec les humains, en fait.
C'est ça, voilà. Ils veulent cohabiter avec les humains sans. Voilà.
Cohabiter avec les humains.
Ils veulent cohabiter avec les humains sans leur.
Pas se servir d'eux comme.
Sans leur porter préjudice.
Voilà, comme nourriture principale. Quoi. Ils doivent se nourrir parce qu'ils doivent vivre. Mais ils ne veulent pas du tout leur porter de côté néfaste, quoi. Ils veulent pas les tuer, quoi. C'est pas leur but.
Ah, avec le fameux sucre.
Le fameux sucre, le fameux café, même quoi, il apprend à faire le café, qui est génial.
Ah oui, ça c'est mythique ça de Tokyo.
Ah, non, c'est incroyable. Et du coup, ça plus ou moins c'est plus ou moins les thématiques de Tokyo Ghoul qui font que c'est incroyable ce manga. Ouais. Incroyable.
Alors attends, on va parler quand même de l'autre camp, on va dire le camp humain quand même, vu qu'on est dans les personnages.
Ah oui, oui.
Personnages charismatiques de Tokyo Ghoul, donc on va parler bien entendu du CCG. Voilà. Les fameuses colombes. Voilà, qui eux du coup sont la force humaine, on va dire, qui va défendre justement la veuve et l'orphelin contre ces horribles ghouls, quoi.
Anéantir les ghouls, quoi.
Tout à fait, voilà. Qui sont armés des fameux quinques, capables d'égaler, on va dire, le pouvoir des ghouls.
Voilà, c'est ça.
Parce que il faut savoir, voilà, que les ghouls ont des pouvoirs, bien entendu, assez surnaturels. Il y a les fameuses cellules RC, voilà, qui leur procurent le fameux kagouné, quoi.
Voilà, le fameux.
Que chaque ghoul a un kagouné différent.
Voilà, qui a plusieurs types de kagouné, mais ça. Voilà, donc. En gros, un kagouné, c'est une arme, quoi.
C'est tout à fait.
C'est des épées, des griffes.
C'est une extension, ça, c'est une extension de leur corps, voilà, qui arrive même certains arrivent à s'en recouvrir presque comme une armure. Enfin, c'est vraiment
le problème. Le pouvoir de. Il me semble que c'est que plus tu le cherches, plus tu le développes, plus tu deviens fou. Enfin, plus tu.
Oui, c'est ça. Plus tu perds de la raison.
Ouais. Voilà, plus tu perds de la raison.
Ouais, tout à fait. Ce qui arrivera, ce qui arrivera d'ailleurs à notre héros. À
carrément.
Il va. Mais parce que le truc en plus, c'est que plus tu la déchaînes. Et elle commence à te phagocyter, quoi, aussi.
Voilà, tu deviens fou de rage et tu perds complètement conscience, plus ou moins, tu prends le contrôle, quoi, un peu de.
Tout à fait. Alors, pour toi, mon cher Alex, quel est le personnage du CCG qui est emblématique pour toi?
Pour moi?
Oui.
Ah, c'est Juzu Sazuya. Tu vois qui c'est?
Donne-moi une description. Non, j'ai un peu
du celui mal. Qui a les cheveux blancs et qui a plein de coutures sur le corps.
Ah, c'est horrible. Ah,
le Juzu, bien sûr.
Le Juzu. Ah, oui, bien entendu. Complètement psychopathe, comme on les aime, quoi. Les fameuses soutures, oui, tout à fait, ouais. Oui. Qui se rajoutent au fur et à mesure, ouais.
En fait, pour vous parler brièvement de Juzu, c'est un jeune qui rentre dans la CCG, dans la CGC, pardon.
Oui.
Et qui a comme partenaire l'un des plus gros bonnets.
Ouais, tout à fait.
Et qui a une folie débordante, qui est fan de combat et qui est fan de sang. Et de tout ça, alors du coup, je vous n'imaginez même pas les combats. Quand il se bat, c'est une vraie folie et il en est complètement barre. J'adore ce personnage.
Ah oui, tout à fait. Ouais.
Il est incroyable.
Le personnage est vraiment mu par ses pulsions de violence, quoi. J'allais dire, c'est vraiment ce qui lève le matin, quoi. c'est vraiment un personnage assez haut en couleur là aussi.
Après, qu'en plus
il lui file une quinque en plus qui ressemble à une faux. Ce qui rajoute encore à l'espèce d'aura de mort du personnage, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est ça. Il a vraiment une aura de mort sur lui.
Et alors, bien entendu, sa particularité, c'est qu'il a été élevé par une ghoul, lui.
C'est ça.
Et oui, là aussi, tous enchevêtrent.
Et toi, du coup, c'est qui?
Moi, j'ai adoré, même si c'est un personnage haut en couleur, là aussi, c'est Kisho Arima, moi. La classe incarnée, ouais. Ses multiples. J'aime bien le fait qu'il ait des multiples quinques. J'ai adoré ça.
Mais après, il me semble qu'on le voit.
On le voit vraiment à la fin.
Il me semble qu'il est plus présent plus tard, je crois.
Surtout la saison 2, oui, on le voit vraiment là.
Ouais, ouais.
On le voit vraiment là. Mais il est un personnage très très intéressant.
Il est très mystérieux et.
C'est l'ange de la mort, voilà, c'est ça. Là aussi.
Clairement, écoute, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est vraiment l'ange de la mort. Voilà. Ce côté classe et angélique qui est vraiment assez classe,
vraiment bien. C'est vrai que c'est un beau personnage. Après, c'est vrai qu'on pense qu'on le découvre un peu plus
un peu plus tard, ouais.
Donc ouais, voilà. Après, c'est vrai que c'est après vrai. Au niveau de la CGC, il y en a d'autres qui peuvent être intéressants, comme le fameux rival de Kaneki. Je sais plus, j'arrive plus à avoir son prénom.
Ayato.
Je crois, c'est celui qui.
Le, c'est non, pas le frère de Toka.
Non, non, du tout.
C'est celui qui. Attends, c'est... donc de qui alors? De qui alors? De qui parles-tu?
Est-ce que c'est celui qui l'affronte quand il affronte Kaneki un moment et que Kaneki le laisse partir. Il fait pas 20 ans avant que je perde le contrôle et il s'en va.
C'est pas Tsukiyama, c'est pas celui qui est.
C'est le jeune, c'est le jeune.
Obsédé par.
C'est le jeune qui vient de rentrer et qui est avec le vieux fou. C'est le binôme du vieux fou là.
Le binôme du vieux fou. Ah mais tu parles toujours au niveau des colombes.
Oui, je suis dans les colombes là.
D'accord. Ah oui, donc alors ok.
Ça te dit rien?
Kotaro Amon, c'est pas.
Ah c'est Amon, je crois.
Ça c'est Amon. Ouais. Ah oui, en effet, oui Amon, oui. Bah oui, gros personnage là aussi Amon, ouais.
Ah oui, qui est très intéressant parce que c'est plus ou moins le héros gentil de la CGC et c'est celui qui te perturbe à mort parce que du coup tu sais plus qui sont les gentils, qui sont les méchants, mais même lui a un doute. Il se pose des questions.
Ouais, tout à fait. Oui.
Et c'est j'aime bien ce personnage là aussi parce que c'est celui qui se met un doute vraiment d'en savoir.
Ouais, tout à fait.
Sont bien et si la CGC aussi quoi.
Ouais, tout à fait. Oui, parce qu'en plus son fameux mentor le fameux Kureo Mado
il est
pas très clair quoi. Ouais, il est pas très clair lui non plus. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Non, rien que là déjà y a de quoi se poser des questions.
oui.
Ouais. Mais oui, c'est un personnage. Ouais, c'est vraiment un personnage qui est intéressant dans Tokyo Ghoul parce qu'il est vraiment la représentation en fait du chevalier blanc quoi.
Oui,
il te dit que le mec est vraiment incorruptible, toujours juste, toujours réfléchi dans la gravité des cas quoi. Enfin.
C'est ça.
Ouais, c'est vraiment un personnage qui dénote un peu par rapport aux autres. Ouais.
C'est ça qui est bien aussi dans Tokugou, c'est qu'il y a des personnages vraiment complètement différents. ils apportent tous leur lot de.
Tout à fait.
Leur lot, t'aimes bien ou t'aimes pas, quoi.
Bah, on peut passer aux thématiques justement de Tokyo Ghoul parce que il y en a énormément justement qui sont amenés grâce aux personnages justement comme ce que tu voulais nous dire, c'est-à-dire que dans Tokyo Ghoul il y a pas vraiment de gentil ni de méchant quoi.
Il y a vraiment
deux camps tranchés comme on peut le voir dans les shonen quoi.
Ah bah ouais carrément, là parce que là on se pose même des questions parce que le héros est censé être une ghoul.
Oui.
Mais bon, il bouffe des humains.
Oui, bon, tout à fait.
Déjà on c'est bizarre. Dire,
oui. Mais le problème après c'est oui et en fait le problème à contrario c'est qu'on se dit oui mais le souci c'est que finalement l'homme a été destitué de son rôle de prédateur ultime.
C'est ça.
Et que finalement les ghouls, enfin certaines ghouls ne font ça que dans le but de survivre quoi hein, parce que il faut bien bouffer pour vivre quoi.
Alors oui et non. Parce que la plupart des ghouls méchantes, on va dire, tuent les humains par plaisir quand même.
Ouais, c'est ça, voilà. Et c'est là où voilà, on retombe dans un autre
de la goinfre de
la fameuse goinfre. Oui.
La fameuse goinfre, oui, il y a même le gourmet.
Le gourmet.
Donc,
tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est là où on tombe dans un autre travers le problème. C'est qu'en fait, il y a là aussi en fait parmi les ghouls on se rend compte que y en a qui sont autant humaines que les humains quelque part et y en a d'autres en fait qui sont aussi mauvaises que les humains en fait. Justement comme c'est les deux personnages que tu viens d'évoquer qui vont tuer pour le plaisir, qui vont torturer pour le plaisir alors qu'on se rend compte qu'il y a la majorité des autres ghouls qui finalement ne sont pas totalement perverses et ne cherchent qu'à une cohabitation avec l'être humain quoi.
Il y a plus ou moins deux mondes parce que c'est pareil pour la CGC, il y en a qui essaient de
et c'est pareil voilà tout à fait cool.
Et il y en a d'autres ils se combattent juste par plaisir comme Madou
voilà oui qui... tout à fait
donc
ou comme par exemple Arima qui qui ne cherche même pas à comprendre, c'est une goule, il faut l'exterminer, quoi.
Ouais, il dégaine.
Voilà. Ah oui, 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 c'est une goule, il va pas chercher à savoir si elle est gentille, si elle est méchante, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi.
C'est ça qui est très perturbant dans ce goule, c'est que tu ne sais pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, tu ne sais pas qui suivre, tu ne sais pas qui apprécier, qui haïr, parce qu'au final, tu sais que
oui.
crever, donc.
Ouais, ouais. Et ouais, et le problème aussi, c'est qu'il y a tellement, en fait, de factions différentes. Et toutes ces factions, en fait, elles essayent de comploter entre elles, que c'est tellement, ça devient tellement un micmac, quoi, au bout d'un moment, que tu sais plus qui, là aussi, qui sont les gentils, qui sont les méchants, quoi. C'est ça qui est génial, parce que on est tellement dans le conflit d'intérêts, en fait, dans les objectifs, on va dire, de certains protagonistes, que là aussi, tout peut basculer, quoi, en fait, très très vite, quoi.
Ah oui, non, ça peut partir très vite, clairement. C'est vrai que c'est une des thématiques les plus importantes de Tokyo Ghoul. Après, j'en ai une autre thématique, j'en ai rarement vu dans les mangas, c'est la torture.
Ah, bah oui.
La oui, torture mentale et physique.
Et physique, oui, tout
parce
à fait.
Il y a les deux, alors du coup, c'est très hard, c'est vraiment
ah
très,
oui,
très hard. Parce
oui,
que...
c'est une des scènes les plus chaudes, ouais. Les plus gore alors... aussi.
Ah ouais, c'est une scène très gore, très trash.
Avec le fameux Jason.
Ah, ouais, il y a Mori. Et, ouais. Qui est très bien, qui est très importante dans le manga parce que
oui.
elle va amener au héros un choix très dur à faire.
Ouais, tout à fait.
Qui est à l'encontre de tous ses principes, mais qu'il est obligé de faire pour pouvoir réaliser plus ou moins ses objectifs, ouais. qui est de protéger ses amis et de,
mais et aussi, de ouais, oui,
devenir
oui.
plus fort.
Ouais, mais aussi d'accepter finalement sa condition, quoi.
Aussi d'accepter parce que c'est à ce moment-là du coup qui
c'est vraiment l'acceptation
cherche,
de
voilà. Il cherche même plus à savoir qui il est, il se dit
oui,
complètement
oui, tout à fait ouais
et là il devient un monstre, un véritable
ouais,
monstre.
Tout à fait. Ah mais il c'est ça qui est fabuleux, c'est que il en devient tellement traumatisé que ses cheveux deviennent blancs, quoi.
Alors je dis bien torture physique et mentale parce que ce qui est très intéressant, c'est que il se fait complètement torturer par Yamori,
ouais, tout à fait.
Mais à l'encontre il se fait aussi complètement torturé par Liz.
C'est ça.
Qui ouais, est plus fait, ou moins ouais. à l'intérieur de lui, quoi.
Oui, oui. Mais il y a la confrontation entre les deux, voilà.
Et alors, du coup, il est complètement
entre les deux
partagé.
Entités, ouais.
Il se fait complètement torturer physiquement par Yamori, qui perd complètement la tête, quoi. Et alors, de l'autre côté, tu as Liz qui est en train de lui sortir tous ses démons de
ça, ouais.
de toute son enfance, de tout ce qui
oui.
fait de lui.
Oui, oui, c'est ça. Ouais.
Et lui, quoi.
Ouais.
Et du coup, c'est une scène dramatique, tragique et incroyable, mm-hmm. elle est très bien faite et puis
ouais.
elle est très moi clairement elle me hante cette
scène. C'est une des scènes cultes, hein, de Tokyo Ghoul.
Cette scène là
ah, oui tout à fait ouais.
elle est
tout à fait, c'est vraiment une scène c'est une scène de Tokyo Ghoul qu'on ne peut pas occulter, on ne peut pas faire sans, quoi. C'est ça qui est génial, quoi.
Ah oui, clairement. Et après, c'est vrai que c'est une ouais. thématique rarement développée. Moi, je sais que j'en ai rare. Je ne lis pas beaucoup, mais là, je vois beaucoup d'animés. Mais c'est vrai que j'ai rarement vu de thématique comme ça développée à ce point.
Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai que c'est hâte.
Parce qu'il y a carrément un brainstorming, au final, voilà, du héros, quoi, hein, à la fin de,
ah oui,
de cette, de cette séance
ah oui,
terrifiante, quoi.
C'est ça, il devient, il change même complètement sa personnalité.
Ouais, tout à fait. Oui, ah oui, oui, là pour le coup, il est bien affirmé.
Il
ouais.
est complètement réservé, oui. timide et
oui.
là, il devient agressif,
ah, oui,
monstrueux.
Il s'affirme complètement. Oui, oui.
Et il torture même. La...
oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'à la fin, il devient peut-être pire que le mec qui l'a torturé. Ouais.
Carrément. Il retourne complètement le cerveau.
ah oui, oui, c'est ça qui est génial quand même.
Donc c'est assez incroyable. Il commence
carrément à le bouffer, enfin c'est horrible.
Ah oui, non. Après il y a la thématique aussi, un truc qui est intéressant.
Ben moi c'était la famille. J'avais trouvé qu'il y a la famille, thématique de la famille, des familles brisées surtout.
Oui.
Parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a énormément de protagonistes, comme Toka, comme Ken, comme la jeune que je dise pas de bêtises, c'est Ima.
Non.
Attends. C'est Inami, ouais. Inami.
Inami, ouais, c'est ça.
La jeune Inami, voilà. C'est où en fait, il y a les deux cas. C'est où il y a eu le vol, en fait, le vol de cette structure familiale, où il y a eu l'abandon, en fait. L'abandon de cette structure familiale, en fait. Et en fait, t'as les deux cas, et en fait, on se rend compte que de toute manière, dans les deux cas, quelque part, ça va amener finalement à chaque fois un changement au niveau des héros, en fait. Et en fait, c'est très très important, justement, dans Tokyo Ghoul, tout ça là. Toutes ces blessures, en fait, toutes ces blessures psychologiques. Comme par exemple Ken qui s'est fait abandonner par sa mère,
au détriment de sa tante.
Ouais, tout à fait. Et Toka et Inami, qui se sont fait, dont les parents ont été massacrés par les colons, par le CCG, quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant parce que justement tout ça va amener finalement l'extrémité de certains héros ou alors leur tolérance finalement. Parce que tu te rends compte que Toka finalement elle va malgré ce traumatisme là rester tolérante et se ranger du côté des ghouls qui veulent cohabiter avec les humains. Alors que son frère Hayato, lui, pour le coup, il n'a qu'un objectif, il veut se venger, quoi.
Il veut
se venger des mecs qui ont massacré leur famille, quoi.
C'est ça.
Donc, c'est vraiment très très intéressant comme thématique, justement, ces espèces de familles brisées, quoi, au sein de justement de nos héros, quoi. Et justement, c'est justement des blessures qui sont profondément enracinées, quoi, à chaque fois. Et qui va leur apporter une seconde métamorphose, finalement, à chaque fois, quoi.
Oui, parce qu'ils sont plus ou moins obligés de changer pour justement faire ce qu'ils ont envie de faire.
Oui, tout à fait, c'est ça.
C'est vrai que la thème de la famille, on le voit beaucoup avec le sujet Inami, c'est vrai que... Il est très important à ce moment-là. Mais oui, il y en a plein des thèmes de toute façon. Mais c'est vraiment incroyable le nombre de choses qu'ils ont essayé de faire dans ce manga, je trouve. Ils ont vraiment parlé de tout ce qu'ils pouvaient.
Bon, on peut parler du coup, vu qu'on parle du manga, on peut commencer à parler de différences justement entre le manga et l'anime, quoi. Donc le manga de Sui Ishida. Et l'anime justement sont un petit peu différents parce que bon il y a énormément de fans du manga voilà qui avaient énormément critiqué l'anime surtout à partir de la seconde saison l'histoire avait vraiment été complètement un peu détournée de ce qu'elle était dans le manga je sais que certains personnages il y a énormément de gens qui ont détesté le fait que certains personnages soient trop secondaires et pas assez développés. Par exemple, dans la saison 2, il y en a énormément qui avaient râlé parce que Toka, par exemple, qui était une héroïne qui était très présente, enfin qui était très importante dans la saison 1 pour Ken, et elle devient complètement obsolète dans la saison 2, on la voit quasiment pas, ou elle est vraiment très secondaire, quoi.
Ce qui est
vraiment dommage. Donc sachant malgré tout que la saison 2 a quand même été supervisée par l'auteur lui-même, quoi. Sui Ishida, on peut se demander après est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès, est-ce qu'il y avait quand même le couvert voilà du créateur original, quoi. Donc
après est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès pour amener justement la prochaine saison à autrement aussi.
Ah, peut-être aussi, tout à fait. Car on sait que le manga continue.
Et qui sort bientôt d'ailleurs.
Ah mon dieu, tu n'en dis trop.
Donc on
peut passer. Ah bah tiens, bah du coup on va passer au clin d'œil justement que j'ai vu dans l'anime.
C'est un clin d'œil, moi j'en vois pas des masses.
Ah là là, si, il y en a plein.
Ouais, je me doute, mais.
Alors il y en a plein. Parce que je vais vous le dire. Alors par exemple, est-ce que vous avez remarqué le tatouage de Uta? Il fait partie du clan des Pierrot. Qui est nommé le sans-visage. Donc il a un tatouage autour du cou, si tu te rappelles bien.
Oui.
Et en fait, c'est une phrase écrite en latin. Donc je vais te dire la phrase, c'est « Nec possum tecum vivere nec sinete » qui veut dire en gros « Je ne peux vivre ni avec toi ni sans toi ». en référence aux êtres humains. Ouais, tout à fait.
C'est trop grave, hein.
Ah ouais, t'as vu, ça pète, hein.
Ah ouais.
Et alors, il faut savoir aussi, alors, c'est une symbolique là aussi qui est très importante, c'est qu'en fait, il y a énormément aussi de références à la carte de tarot, le pendu. On le voit énormément, le pendu, mais on voit surtout énormément le chiffre 12, qui est justement le chiffre de le chiffre arcanique de la carte du pendu dans le dans les tarots. Et en fait, le pendu, il est très intéressant parce que justement, c'est une carte du tarot qui symbolise quelque part les changements ou les brisures radicales. Un changement radical, tu vois, c'est vraiment tu passes des pieds à la tête, quoi, en gros, hein, quelque part.
Ouais.
C'est vraiment ça que, qu'elle caractérise, quoi.
D'accord.
Et en fait, si vous regardez bien, pareil, Eto ou Sen Takatsuki,
ouais.
De son vrai, de sa fausse identité, on va dire ça comme ça,
ouais.
La fameuse romancière, dont d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'elle est, il y a deux ghouls finalement. Ouais, elle est partout et il y a deux ghouls qui sont fans d'elle. Donc c'est assez rigolo.
Oui.
Donc cette fameuse Eto sur un de ses bouquins que va faire justement d'ailleurs que va faire dédicacer Inami.
Oui.
Il y a aussi la représentation du pendu de des tarots justement. Et ah oui, et à savoir que le premier livre justement que donc le héros a lu de Sen Takatsuki, c'est l'œuf et la chèvre noire. Et justement, ces deux entités représentent en fait la goule d'un côté, qui est la chèvre noire, et l'œuf qui est l'humanité, quoi.
Ah, d'accord.
Ah oui, c'est assez intéressant. Bon, bien entendu, on peut parler aussi de Amon, dont le nom vient directement des dieux égyptiens, bien entendu.
Ah oui, mais oui, Amon.
Car Amon est le dieu des dieux.
Ah, attends, ça vient des dieux égyptiens, Amon.
Ouais, tout à fait, ouais. Ça vient des dieux égyptiens, voilà. Alors, on va. Ah oui, il faut savoir aussi que la transformation finale de Eto, elle est directement inspirée de Alien aussi. De la reine Alien.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a un air, oui. C'est
ouais,
vrai.
Tout à fait. Et alors, ah oui, bien entendu, un autre, bon, on va pas tous les faire, mais il y a énormément, tout ce qui est les surnoms que prennent les ghouls,
ouais.
Sont aussi des clins d'œil. Par exemple, le fameux Yamori, qui va torturer notre pauvre héros.
Jason, ouais,
donc c'est Jason, et bien entendu, Jason,
ouais.
Ça vient du fait qu'il est tellement psychopathe, en fait, on l'a appelé du nom du fameux Jason Voorhees.
Oui, ouais, ça, je l'avais compris.
Le fameux
ouais.
Monstre.
Mais d'ailleurs,
il a le
max de hockey.
Eh oui, bien entendu.
Ouais, ça, j'avais en souvenir.
Donc voilà, gros clin d'œil, bien entendu.
À... C'est vrai que tu le dis, ouais, je le savais, mais j'aurais pas dit que c'était un clin d'œil.
Et ouais, si, c'est bien un clin d'œil. Donc voilà, pour chers anime fans, si vous voulez vous amuser à décrypter un petit peu ou à retrouver ces fameux clins d'œil que je viens de vous dire. N'hésitez pas à vous remater Tokyo Ghoul.
Ah ouais, dépêchez-vous parce que là, la saison 3 commence la semaine prochaine.
Et mine de rien, bon, malgré les critiques, il faut quand même avouer que c'est le studio Pierrot qui a fait la série.
Ouais.
Donc bien entendu, le studio dont on a déjà parlé, parce qu'on a fait Bleach, ils ont fait Yu Yu Hakusho, ils ont collaboré, bien entendu, ils ont fait énormément de coproductions avec le grand Jean Chalopin, n'est-ce pas? Et moi, je reconnais que l'animation est quand même de qualité, quoi. Donc, il y a vraiment pas à gueuler. Pour le coup, moi, j'ai trouvé l'animation était vraiment très très jolie.
Ce qui est aussi très joli, ce sont les OST.
Aussi, il y a des musiques.
Ah
oui, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'il y a des super. L'opening, le premier opening est très très bien.
Ouais,
c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut savoir, alors c'est ça qui est assez rigolo aussi, c'est que toute l'équipe justement qui avait œuvré sur Tokyo Ghoul, c'était vraiment leur premier truc quoi. Hein. C'est vraiment des mecs qui n'avaient pas encore une grosse expérience à qui on avait confié ça justement. Donc ils se sont plutôt pas mal débrouillés.
Ils se sont bien démerdés, ouais, c'est ce que je veux dire.
Tout à fait. Donc, on va en rester là. On va laisser on va laisser les mots de la fin à notre expert Tokyo Ghoul. Alex, qui va nous annoncer justement la troisième saison.
Et oui, qui sort là dans deux semaines, qui est principalement sur la suite de Tokyo Ghoul par rapport au manga qui est Tokyo Ghoul Heureux.
Heureux, tout à fait.
Et qui va parler du coup, si je dis pas de bêtises, toujours de Ken Kaneki, mais cette fois-ci dans l'autre camp. Ah. Il fait partie des colombes.
Eh oui.
Et oui, ayant perdu la mémoire, il est complètement une colombe et on va du coup suivre son aventure dans l'autre camp.
Ah, magnifique. Voilà. Magnifique, magnifique. Donc, sur ce, chers animés fans, nous allons vous laisser là. Après vous avoir bien teasé la prochaine saison de Tokyo Ghoul.
Regardez-le très très vite pour la saison 3 qui arrive bientôt.
Oui, allez là. Nous allons te laisser, cher Alex. C'était passionnant, cette émission.
Merci à toi, mon petit Nico.
Nous allons laisser notre cher Alex, nous allons laisser Juju Bafi, qui j'espère. Nous avons un an, on l'a pas converti. Il est encore là, mais on l'a peut-être pas converti. Bon, nous allons quand même souhaiter un bon prochain podcast, chers amis. N'hésitez pas à nous suivre, bien entendu, sur le blog et les réseaux sociaux. Et sur ce, on vous dit à plus. Ciao, ciao.
Salut tout le monde.